Bonjour, chers auditrices et auditeurs de ce programme Les Vents d'Amérique latine, organisé par notre association Amérique latine pour la culture et les droits fondamentaux. Aujourd'hui, notre mission sera dédiée justement à un événement qui a frappé secouillé l'Amérique latine et même, on peut dire, le monde. Non, c'est une agression militaire contre le Venezuela et puis et l'enlèvement du président Nicolas Maduro qui se rencontre aujourd'hui en situation de prisonnier de guerre. Je tiens à dire prisonnier de guerre parce que si c'est ça, c'est une guerre irrégulière qui mène les États-Unis depuis longtemps avec le Venezuela, avec Cuba et puis d'autres pays d'Amérique latine sous d'autres façons, sous d'autres formes. Aujourd'hui, on va parler de ça et on va parler aussi sur les implications au niveau des droits internationaux, toutes les règles, tous les accords, les décrets du Conseil de sécurité international des Nations Unies qui ont été piétinés, qui ont été écrasés. C'est quelque chose de brutal, quelque chose qui mène les droits internationaux pratiquement à une situation de zéro. Et c'est un conflit qui vient, c'est une marque, qu'on peut dire, une marque très négative depuis la Deuxième Guerre mondiale. On va parler aussi de l'importance de l'Amérique latine pour les États-Unis en situation de baisse au niveau économique, au niveau financier, au niveau des puissances qu'elle était. Et on va parler des droits aussi des peuples, parce que cette agression, ce n'est pas une agression seulement contre le Venezuela ou une agression seulement contre le président Maduro. C'est la suite de tout un tas de mesures qui ont été réalisées depuis, on peut dire, depuis plus de 100 ans. C'est le contenu de base de notre émission.
Est-ce qu'on commence avec un petit morceau d'Atahualpa Yupanqui? Oui.
Caminito del indio, sendero colla sembrao de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. La noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Chers auditeurs, j'oubliais de me présenter, mille excuses, mon nom c'est Ronald Bustamante, d'origine péruvienne, et aujourd'hui j'ai la chance d'être assisté par Manu de Radio San Ferréol.
Merci à toi, c'est un honneur.
Bien, alors, cette situation de l'éternel événement de Venezuela, que c'est un acte d'agression, un acte réellement de colonialisme, ça rejoint en fait plus de 500 ans de colonialisme qui vivent la population de, qu'aujourd'hui s'appelle Amérique, l'Amérique du Nord, centrale, l'Amérique du Sud et tout ça. D'abord, c'était colonialisme espagnol. Ensuite, le colonialisme portugais, et puis la France aussi s'est implantée. Et puis un autre morceau, c'était par le colonialisme anglais, et ainsi de suite. Il y a eu des indépendances, il y a eu des déclarations, des États qui se constituaient, mais depuis plus de 200 ans qu'il y a ces procès, les pays sont passés, grâce aux classes dominantes, qui se sont bien établies par rapport aux intérêts des grandes puissances de l'époque, avec des structures qui continuent la domination et qui met en avant les capitaux, tant les capitaux des sept et les bénéfices de cette grande bourgeoisie et parfois féodale même, et en alliance et à l'ombre des grandes puissances externes européennes, états-uniennes et même japonaises. Alors, mais ce qui est nouveau, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tout un tas de règles, des normes qui ont été établies, et concrètement, Nations Unies a établi un Conseil de sécurité internationale, et toutes ces normes ont été brisées, piétinées, écrasées sous la volonté d'une puissance que c'est les États-Unis. Je ne vais pas personnifier, parce que, bon, en effet, c'est M. Trump qui est à la tête et peut-être même à l'origine de ce but, de cette politique. Mais ce n'est pas seulement lui, mais tout ce qui représente les États-Unis dans une phase de déclin, une phase dans laquelle, en comparaison dans la situation internationale et en particulier avec la Chine, les États-Unis sont en train d'une, à l'intérieur, ils perdent ce qu'ils appellent des marchés, des capitaux, des secteurs dans lesquels ils se croyaient hégémoniques, et puis au niveau technologique et même avec des nouvelles créations de l'industrie cybernétique, de l'industrie d'Internet, et tous les logiciels derniers qui sont en train de se créer, et ils sont en phase de déclin. Et ça se montre aussi, sont le désespoir, parce qu'un des drapeaux de Trump, c'était de retourner à que l'Amérique soit plus puissante, soit puissante comme elle était. Et on parle de l'Amérique.
Make America Great Again.
On parle de l'Amérique, alors il ne parle pas des États-Unis, il dit l'Amérique. Et la vision qu'ont les États-Unis de l'Amérique, c'est justement que l'Amérique, c'est eux. Et puis, dans le monde, en particulier en Europe, ils parlent des Américains. Et qui sont les Américains? Les États-Unis. Alors, la doctrine Monroe du siècle précédent, c'était justement l'Amérique considère tout entière pour les Américains. Donc, pour eux. Et ce qui a été arboré par M. Trump. Alors, son rêve, c'est ça. Il a eu déjà tous les taxes douanières par rapport à l'Europe, qui a fait que l'Europe soit pratiquement en situation de faiblesse par rapport à tout ça. Et puis, il a annoncé dans son plan les besoins, et pas les besoins, mais comme les droits, de réincorporer aux États-Unis des richesses qui les appartiennent, qui les appartiendraient, et qui aujourd'hui sont dans d'autres mains. Il parle de reprendre les richesses des États-Unis au Venezuela et aussi dans d'autres pays, du Mexique. Et puis, il ne s'est pas gêné non plus de parler du Canada et du Groenland. Et même l'Islande, non, dans ses rêves de grande puissance, il y a tous ces éléments. Mais le plus grave, c'est que par rapport à cette action d'avoir intervenu militairement dans une guerre complètement asymétrique, comme il le nomme, le Venezuela, et d'avoir capturé les dirigeants du Venezuela, M. Maduro, et il a piétiné tout un tas de droits, comme le signal des droits internationaux, comme le signal l'ambassadeur de Venezuela au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a quelques jours. Il a piétiné la Charte des Nations Unies, article 2, qui arbore le principe d'égalité juridique des États, interdiction de l'usage aux menaces, de l'usage de la force ou de la menace. Ensuite, déclaration universelle des droits de l'homme, non, droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant les 3 janvier, les États-Unis, déjà, ils avaient écrasé, bombardé des bateaux civils qui traversaient la Méditerranée près des côtes vénézuéliennes sous le prétexte qu'il y avait un chargement de drogue.
Les Caraïbes, tu veux dire?
Dans la Caraïbe.
Golfe du Mexique.
Et donc, et tous ces crimes, tous ces assassinats, c'est dans la impunité la plus grande, parce qu'ils n'ont jamais rendu de compte, montré qu'il y aurait le moindre élément qui pourrait justifier une action militaire, une action comme ils l'ont fait. Donc, on est face à une tyrannie, face à une puissance, comme c'est les États-Unis, qui... Pour qui les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ça vaut rien. Un autre élément qu'a cité l'ambassadeur vénézuélien, et c'est avec beaucoup de solides, dans son intervention très solide, c'est que le pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été aussi piétiné. C'est-à-dire, ces pactes signifient la vie commune, c'est un droit inhérent. Interdiction des privations arbitraires des moyens de subsistance. Et qu'est-ce qu'il a fait? depuis plusieurs années, le Venezuela est soumis à un sabotage, à un encerclement, à l'interdiction pure et dure de pouvoir exercer son droit à la commercialisation de ses richesses. Et puis, cette interdiction, ça va aussi à des pays et des entreprises qui obéissent à ce mandat. Le Venezuela avait son industrie pétrolière qui avait baissé énormément, et puis une industrie qui aurait pu permettre d'autres éléments pour le développement du pays et donc pour le droit à la vie. Aussi, la convention de Genève sur la haute mer, liberté de navigation en haute mer, interdiction des souverainetés étatiques sur la haute mer. Ils se sont exercés la souveraineté complète dans les Caraïbes. Donc, pour naviguer dans les Caraïbes, il faut être bien vu, il faut avoir la bénédiction des États-Unis pour éviter que toutes ces flottes militaires qui sont déployées et pour éviter qu'il y ait un bombardement, un écrasement des bateaux. Résolution 1803, cite l'ambassadeur de l'Assemblée générale de l'ONU, qui dit « La souveraineté permanente sur les ressources naturelles. » Et qu'est-ce qu'il envisage ? Il envisage les ressources naturelles, que c'est le pétrole. Donc, la réserve pétrolière la plus grande du monde, Venezuela, aujourd'hui est visée comme un objectif réel pour le mettre sur la domination au profit des États-Unis. La résolution 25 de l'Assemblée générale des Nations unies, cite aussi l'ambassadeur, dit « Guerre d'agression, c'est égal à un crime contre la paix, l'interdiction d'acquisition territoriale par la force. » Et c'est justement ce qu'ils ont fait, ils envisagent de le faire aujourd'hui avec Venezuela, mais qu'ils l'ont fait déjà dans les passés, par exemple avec le Mexique. Les grands États de la Californie, Nouveau-Mexique, Colorado, ils appartenaient au Mexique et aujourd'hui sont sous le territoire des États-Unis et ils envisagent encore plus grand, toute l'Amérique. On va continuer, on fait une pause musicale. Et on va continuer.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol.
Bien. Bon. Donc, l'ambassadeur, monsieur Manuel Moncloa, ambassadeur de Venezuela aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, il a formulé trois demandes explicites. Il demande la condamnation explicite des agressions en cours depuis les exécutions extrajudiciaires. Et puis, depuis de cette intervention militaire qui a eu avec, comme rehén, le président Maduro, nous, il demande des mesures pour que les États-Unis retirent les forces militaires qui cessent l'usage de la force et lèvent les blocus unilatéral. Entre parenthèses, on peut dire que ces blocages unilatéraux empêchent les bateaux avec des charges pétrolières et l'approvisionnement de Cuba, qui est dans la mer Caraïbe. Cuba qui avait des accords justement pour que l'île puisse avoir une source d'énergie constante d'après le Venezuela. Non ? On fait les parenthèses.
Tu veux dire que là, Cuba ne peut plus du tout être approvisionné en pétrole.
En effet, avec tout ce qui représente, donc paralysation de l'industrie, des moyens qui utilisent le pétrole, les combustibles, et tout ça.
Et c'est pas simplement Cuba, tu veux dire que toutes les cargaisons à destination de n'importe quel pays importateur de pétrole vénézuélien sont arrêtées là, sont à l'arrêt?
Sont à l'arrêt parce que le Venezuela ne peut plus exporter son pétrole. Et même il y a des entreprises comme Exxon qui sont installées déjà au Venezuela. Et donc les États-Unis se prennent avec toute la flotte militaire qui sont déployées, et sont dans les critères de donner ou pas l'accès, de laisser libre cours ou non, selon ses besoins. C'est-à-dire une situation d'esclavagisme à une échelle énorme qui va des coercions contre l'État. Et c'est justement le point sur lequel l'ambassadeur Moncloa demande aux Nations Unies de prendre des mesures pour que les États-Unis retirent ses forces militaires. Aussi, demande le lancement d'un processus de reddition de rendition des comptes afin de sanctionner ces actes et prévenir leur répétition. Et en effet, dans le Conseil de sécurité, les États-Unis sont présents, mais ils sont présents avec un droit de veto. Donc, de ce côté-là, aussi, il peut, même si le Conseil de sécurité essaye de formuler des mesures, ce qu'il demande à l'ambassade de Moncloa. Il suffit le veto des États-Unis pour que rien ne se passe. Donc, ce qui est arrivé dans les mois précédents lors d'autres actions.
Puis, donc on voit toute l'impuissance des États-Unis avec ce Conseil de sécurité et ses droits de veto des Nations Unies, toute l'impuissance des Nations Unies.
En effet, l'impuissance des Nations Unies face à un État. Un État, c'est les États-Unis, qui a à sa tête quelqu'un qui a, avec une vision fasciste, puisque c'est pas une invention de dire ça, parce que tout ce qu'il représente, c'est... Et ça rejoint justement des actions, comme on a vu lors de la Deuxième Guerre mondiale, les invasions de territoires, l'exercice de la force pour que les États puissent être à la solde de la puissance militaire de l'Allemagne à l'époque, l'Allemagne de Hitler. Et Tchécoslovaquie, et puis l'invasion à la France, à l'Europe, les Balkans, et tout ça, c'est complètement dans cette optique. Et puis, il faut se rappeler que les jours que Trump a été le premier jour qu'il a été l'exercice comme président, il y avait un de ses collaborateurs à l'époque qui a fait lever les bras à le style nazi.
Le fameux salut d'Elon Musk.
Oui, d'Elon Musk, oui.
Qui a sidéré tout le monde.
Oui, demande tout le monde, et donc pour eux, c'est quelque chose de normal. Il croit à ça, il l'exerce, non? Et le mosque, cette vision, comme les déclarations de Trump et les actions qu'il a aujourd'hui fait, sont pas dans l'exception. Faut dire aussi que l'Allemagne se préparait à la guerre parce qu'il voyait son économie à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, des années 39-40, voyait son économie et sa puissance qui déclinait face à d'autres puissances comme l'Angleterre, la France, et puis songeait d'avoir tout l'espace colonial qu'il y avait à l'époque, ces deux puissances. Et puis s'annexer l'Union soviétique de l'époque, qui pour eux, c'était cette vision qu'il avait depuis le début. La question préoccupante, c'est qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que... apparemment, il comptait avec une soumission du pouvoir de l'État, une destruction, une désordre du pouvoir de l'État, mais l'État vénézuélien s'est reconstitué après l'arrestation de M. Maduro. Et même sans M. Maduro, l'actuel présidente, qui était vice-présidente antérieurement, avant, elle exerce, elle est aujourd'hui, Madame Delcy, elle exerce le rôle de présidente de la République. Et on a vu toutes les déclarations des forces armées, des ministres, des parlementaires, des systèmes judiciaires, desserrer les coudes face à aux besoins de la défense nationale. Et de continuer l'État. Ils sont pas dans une situation d'agresseur, mais en situation de défense. Et voilà. C'est aussi très important les déclarations des différents présidents de l'Amérique latine. Non, la présidente du Mexique, le président du Chili, qui il y a deux jours, il a fait... une déclaration, il a dit, si on laisse passer tout ça, qu'est-ce que va être l'avenir? N'importe quel, dans n'importe quelle situation, selon les besoins de la dictature qui exerce aujourd'hui les États-Unis, n'importe quel pays peut être agressé, peut être soumis, il y aurait en toute impunité. Et puis, le président du Cuba aussi a fait des déclarations assez fortes, parce qu'en effet, Cuba est encerclé. Cuba, depuis des années, développe une résistance assez forte, justement, face à toute cette politique des États-Unis. Il faut aussi souligner que un de ses ministres importants, c'est M. Rubio. Donc, ses parents sont cubains. Il est d'origine cubaine. Je ne sais pas s'il est né à Cuba, mais apparemment, il serait né à Miami. Non, mais cette politique impérialiste, ça se développe. On fait une petite pause musicale.
Ya se murió el burro que traía la vinagre, ya lo llevó Dios de esta vida miserable.
Ya se murió el burro que traía la vinagre, ya lo llevó Dios de esta vida miserable.
Que turururururu. Estiró el pescuezo, arrugó el hocico y con el rabo tieso murió de improviso. Que turururururu, que turururururu, que turururururu, que la culpa la tienes tú.
Que turururururu, que turururururu, que turururururu, que la culpa la tienes tú.
Todas las vecinas fueron al entierro y la tía María tocaba el cencerro. Que turururururu, que turururururu,
que turururururu, que la culpa la tienes tú.
Bien, on continue notre mission. Et alors, cette situation est, comme on disait au début de la mission, elle n'est pas, cette politique n'est pas nouvelle. Et déjà, à part des annexions territoriales qu'on a parlé, des conflits avec le Panama, il avait déjà fait un coup d'État, les États-Unis, au Venezuela, pour arrêter Chavez, M. Chavez, qui était emprisonné et tout, et que c'est grâce à la résistance des forces armées vénézuéliennes que M. Chavez a dû être libéré. Il y a d'autres politiques. Quand il y avait Salvador Allende, donc, ça me fait penser à la musique qu'on vient d'écouter, Tururu, de Víctor Jara. Il y avait Salvador Allende et c'est M. Pinochet qui donne un coup d'État avec la bienveillance des États-Unis et de l'Angleterre, de l'Europe, etc. Avoir un président socialiste, communiste en Amérique latine, c'était hors de question de l'avoir. Donc, un coup d'État est là. Et puis, comme il y a eu en Amérique latine aussi tout un tas de mouvements révolutionnaires en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, les années 50, 60, puisque des problèmes dans chaque pays avec la féodalité, les problèmes de la terre, et les problèmes des salaires pour la classe ouvrière qui travaillait dans les mines, et tout ça, c'était des problèmes assez forts et que la population souhaitait un avenir meilleur, une nouvelle société. Il y a eu tout un tas de mouvements révolutionnaires, non? Et puis, un de ces mouvements, c'était justement Cuba, que l'année 59 a réussi, sous la direction de M. Castro, à prendre le pouvoir. Et puis, ça a donné un élan révolutionnaire dans presque tous les pays de l'Amérique latine. Et donc, les États-Unis, par rapport à ça, ils font la réunion de Punta del Este dans laquelle ils parlent du besoin de faire des réformes agraires justement pour éviter que le communisme puisse se servir de ces problèmes et que ce sera nécessaire des réformes agraires, bien sûr, à la sauce capitaliste, à la sauce des États-Unis. Et parce qu'une réforme agraire, une véritable réforme agraire, c'est la répartition individuelle de la terre aux paysans, ceux qui la travaillent. Non? Et un exemple de ça, je peux le dire en tant que péruvien, parce qu'on a vu un gouvernement militaire qui s'établit en 68 et qu'une des premières mesures qu'il a fait, c'était la réforme agraire. Mais qu'est-ce que c'était la réforme agraire? C'était absolument pas la répartition de la terre, des grosses haciendas féodales, parce qu'il y avait la servitude, la féodalité, c'était complètement la continuation de l'exploitation d'avant. C'était pas la répartition de la terre individuellement à ceux qui la travaillent, bien qu'il y avait beaucoup de luttes dans ce sens des paysans. C'était l'unification des grosses propriétés foncières existantes, dans 4-5 propriétés foncières existantes, sur des sociétés agricoles d'intérêt social, avec les noms. Nous, d'intérêt social, il n'y avait absolument rien. C'est-à-dire, ces sociétés agricoles, c'était aux coopératives dans d'autres endroits, c'était sous l'égide de la commande de l'État. Et là, ils viennent les points clés. Ils étaient endettés dès le départ au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, qui avait donné des crédits aux banques agricoles nationales qui étaient créées pour ça, et dont les intérêts venaient directement, l'usufructation des résultats économiques allait en majeure partie à payer à la banque agricole, donc à la Banque mondiale, Fonds monétaire international, et aux anciens propriétaires. Donc la lutte pour la terre a continué dans cette situation. Et puis, à cette époque, il y a eu la guérilla Che Guevara qui était en Bolivie. Nous, justement, dans cet élan de libération, et quand je vois tous les portraits, les effigies à droite et à gauche dans différents pays de Che Guevara, c'est que pas seulement marqué à l'Amérique latine, mais qui est devenu un symbole des révoltes, des luttes, des révolutions dans le monde entier. Alors, il y a eu des guérillas en Argentine, des guérillas au Pérou, des luttes armées en Colombie, Guatemala, Nicaragua, on se rappelle des Misquitos, etc., même au Brésil, au Mexique, les Zapatistes, tout ça. Donc, l'esprit de révolte est fort, a continué fort, il ne va pas certainement s'en entier. Et par rapport à ça. Et qu'est-ce que c'est la politique de l'époque des États-Unis? de mettre des gouvernements militaires dans chaque, dans tous ces pays. On s'est faut seulement souligner ou se rappeler du plan Condor. Le plan Condor qui a fait des dictatures et avec la sauce répressive des États-Unis et dans tous ces pays avec des tortures, disparitions, massacres des populations et tout ça. Et après le plan Condor, ils sont revenus à une autre stratégie qui s'appelle la guerre asymétrique. Qu'est-ce qu'on entend par guerre asymétrique? On a déjà parlé dans l'une de nos émissions. Donc, pour continuer cette politique répressive, ils considèrent dans la guerre asymétrique, c'est un des points clés, que le développement, la sécurité nationale et la défense nationale sont unis, c'est un tout, indivisible. Développement, sécurité et défense, un tout indivisible, et que tout ça c'est sous la commande de l'État. Le mot développement, c'est un joli mot, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'ils considèrent comme développement. Bien sûr, les investissements miniers, pétroliers, forestiers, qu'aujourd'hui ils sont en train de raser l'Amazonie, et tout ça, c'est tout ça qu'ils considèrent développement, et qui vont au profit des grands capitaux. Et donc, s'il y a des protestations, s'il y a des luttes contre ces exactions, parce que les mines, qu'est-ce qu'ils font? L'espace forestier, les déboisements de l'Amazonie, ça implique les déplacements et la répression à la population qui habite sur les territoires. Les territoires sont octroyés aux mines pétrolières, aux entreprises forestières et aux agricoles. Et il faut que la population qui est sur le territoire sorte. Et sinon, il y a, dans cette guerre asymétrique, le premier élément qui s'utilise, ce n'est pas la répression, c'est la répression judiciaire. Donc, il y a des procès, des accusations, les dirigeants doivent se défendre, parfois parcourir des centaines, des milliers de kilomètres parce que les cas sont vus dans un tribunal qui est de longue distance, etc. Et si malgré tout ça, et la population continue à lutter, donc la guerre asymétrique signifie, parce que ça va contre la défense nationale et la sécurité nationale, l'emploi de la force et donc tous les centaines, tous les milliers de morts qu'il y a au Pérou, qu'il y a eu en Bolivie et qu'il y a en Équateur et qu'il y a eu en Colombie avant la présidence de M. Petro et dans d'autres pays. Donc, cette politique que ce qu'on on voit aujourd'hui, l'agression, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est pas l'agression au Venezuela, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement le Venezuela ou quelque chose qui concerne uniquement l'emprisonnement de M. Maduro, mais c'est la suite et surtout la perspective. Comment les États-Unis, en piétinant tous les droits internationaux, ils peuvent se permettre en toute impunité tout ce que avant essayaient de cacher. Et aujourd'hui, c'est ouvertement. Avant, ils faisaient un peu la même chose, mais il se cachait derrière des arguments comme la liberté, la démocratie, etc. Et ils utilisaient surtout les forces de l'État lui-même. Nous, un autre élément important à se rappeler, c'est que dans tous les pays d'Amérique latine, il y a des conventions qui font que les que les officiers, après l'école militaire, ils vont aux États-Unis pour faire une autre formation, une formation d'un an, de quelques mois, et qui est dans les critères de la guerre antisubversive. Donc, à partir de là, les officiers commencent une carrière, après font leur cours en Israël, et aux États-Unis. Ils ont quelques-uns qui sont venus même en France, nous, ils sont formés avec cette optique. Et donc, les forces armées des pays sont déjà alignées avec ces militaires sous la commande des États-Unis. Et je peux parler aussi du cas du Pérou. Et quand il y a eu la guerre révolutionnaire de 80 à 92, il y a eu le coup d'État. Il y a M. Fujimori qui a été élu président, parce qu'il était professeur d'une faculté d'agronomie. Tout son discours électoral, c'était sur le développement rural, agricole, etc. Mais le jour qu'il a été élu, il était invité, entre guillemets, à un repas avec les forces armées. Et là, les forces armées, ils ont mis sous la table les plans de la feuille de route, c'est-à-dire ce qu'ils devaient faire sur la libéralisation, sur la répression et sur la lutte antiterroriste. Et donc, avec ces critères qui durent depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, il y a une situation dans lesquels le pays a donné, et je parle du Pérou, mais on peut parler également de l'Équateur et bien d'autres pays, tout est ouvert aux gros capitaux au détriment de la population. Et les opposants peuvent être qualifiés sans problème, à n'importe quel moment, de terroristes. Donc c'est parti de cette politique. De ces politiques qu'aujourd'hui, ça met en lumière la situation avec l'agression qu'a fait M. Trump au Venezuela.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche.
Bien, pour finir, chers auditeurs et auditrices, on veut exprimer notre souhait, exprimer notre solidarité avec le peuple vénézuélien et avec le peuple latino-américain, parce que comme on a dit, ça s'implique pas seulement le Venezuela, mais l'Amérique latine et à mon avis le monde entier. Et parce qu'il y a une étape, une nouvelle étape peut-être qui s'ouvre, des résistances du peuple du monde pour les libertés fondamentales, pour le droit international et pour la subsistance des Nations Unies. Parce que si on met Nations Unies qui a la charte des droits de l'homme, des droits fondamentaux et tout un tas de décisions pour le peuple qui s'appelle autochtone, donc le peuple ancestral de nos pays, et tout ça, ça viendrait par terre. Et donc, et même pour l'Europe, toute notre solidarité, parce que Groenland est menacé, et apparemment, c'est dans ses objectifs, et je crois que d'une façon ou d'une autre, l'Europe peut être, va être touchée pour cette politique, bien que M. Macron, son premier discours par rapport à ça, c'était d'adhérer et de saluer les mesures de Trump, l'agression. Et apparemment, après, il a rectifié ses critères, mais ça n'empêche que c'est très préoccupant pour le monde entier de vivre dans un monde qui n'a pas de règles, que les règles établies depuis la Deuxième Guerre mondiale, que les normes de sécurité internationale sont piétinées, écrasées en toute impunité. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Et notre association, vous pouvez regarder sur le site de Radio San Ferriol. Il y a notre mail, vous pouvez nous laisser des commentaires et puis à l'occasion de communiquer. Et ce sera bien de faire un élan, un rassemblement de solidarité qui signifie justement, pas seulement sur le Venezuela ou pour M. Maduro, mais pour défendre les droits fondamentaux des Nations Unies et de la Charte des droits de l'homme qui sont en train d'être piétinés.
Merci à toi, Ronald. Alors, un jeudi par mois, dans les vents d'Amérique latine, tu nous donnes des nouvelles de toutes ces luttes. Donc, on se retrouve le mois prochain.
Merci beaucoup.